la parole. Et j'ai mis un titre, Hélas, mon frère. Hélas, mon frère. Alors, on va pas lire le chapitre en entier parce que ça serait trop long, mais vous pourrez lire chez vous. C'est 1 Roi 13. 1 Roi 13. Vous le lirez en entier. En fait, voici l'histoire d'un homme de Dieu, qui est parti donc avec une feuille de route donnée par Dieu pour trouver le roi Jéroboam et pour lui dire certaines choses de la part de Dieu. Et il va lui dire, au verset premier, « Voici un homme de Dieu arriva de Juda Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il criait contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel. Voici naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui, devint sèche, il ne put la ramener à lui, à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Amen, etc., etc. Lorsque Dieu parle, frères et sœurs, il est important, pas simplement d'entendre ce que Dieu a à dire, mais d'écouter ce que Dieu dit. Il y a parfois, ma femme m'a fait des remarques en me disant « Mais tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit ?» J'ai entendu une parole, mais je ne sais pas si c'était à moi que ça s'adressait ou quoi. Et on peut entendre parler Dieu comme ça, sans prêter attention à ce que Dieu nous dit. Et pourtant, Dieu prend du temps pour nous parler. Il est important, frères et sœurs, de ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et d'arranger la Bible selon nos envies. Faire de la parole de Dieu notre interprétation. Je vais vous dire clairement, moi je m'en moque complètement de ce qu'un pasteur va penser de la Bible. Moi ce que je veux entendre, c'est ce que la Bible me dit, et pas ce qu'un homme va dire de la Bible. Parce que d'un homme à un autre, il peut avoir son interprétation. Sauf ce qui est important, c'est de dire, de croire, enfin de lire et d'accepter ce que la Bible nous dit. Donc il faut du sérieux. J'ouvre une parenthèse, ce matin, nous avons pris le pain et le vin. Est-ce que nous l'avons fait avec bonne conscience? Ou est-ce que nous camouflons certaines choses en se disant, le Seigneur, il peut bien permettre ça. Dieu, il n'est pas carré. Dieu, il n'est pas carré. Mais il est juste et saint, trois fois saint. Et il est important de vivre selon la parole. Cet homme de Dieu qui, ici dans ce passage, est une histoire triste, parce que nous allons voir la suite, est complexe à la fois. Cet homme de Dieu était véritablement un homme de Dieu. Il est nommé homme de Dieu au verset 1er. C'était un homme qui avait une véritable relation personnelle avec Dieu et lui appartenait. Il était imprégné de la présence de Dieu. La parole nous indique qu'il arriva de Juda à Bethel. Juda signifie louange, rendre grâce. Et Bethel, maison de Dieu. C'est un homme qui rendait grâce et louait Dieu de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et c'est un homme qui était habitué à la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas simplement l'Église. Nous sommes la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous, Nous sommes la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons la présence de Dieu dans notre vie. Faut-il encore ne pas vivre dans l'illusion ? Je répète, faut-il encore ne pas vivre dans l'illusion, dire alléluia, Dieu est avec moi, alors que Dieu, vous savez, c'était, comment il s'appelait, Samson. Il pensait qu'il les sentirait comme les autres fois, mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré. David va dire en quelques mots, ne retire pas ton esprit de ma vie. Il avait vu Saül, un homme qui avait été rempli de Dieu. Et parce que Saül avait désobéi à Dieu, l'Esprit de Dieu s'étant retiré de Saül, la crainte de David, ce n'était pas de devenir pauvre, d'habiter sous une tente ou quoi que ce soit. La crainte de David, c'était que l'Esprit de Dieu se retire de sa que la présence de Dieu se retire de sa vie. Ça, c'était sa crainte. Que ça devienne notre crainte. Qu'on soit toujours dans la crainte de dire ben, que Dieu habite et continue à trouver sa place dans mon cœur et dans ma vie. Et ainsi qu'on puisse louer et rendre grâce à Dieu d'être dans sa maison. C'était un homme qui avait un message à transmettre. Verset 1er, il arriva de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel. Il ne vient pas comme ça de Juda à Bethel et cet homme eh bien, va dire ce qu'il a envie de dire. Non, c'est un homme qui est inspiré. Un homme qui est à l'écoute, un homme sensible aux choses de Dieu, un homme qui était en contact dans sa relation avec Dieu. Et pour être en contact, il faut avoir son entretien personnel, intime avec Dieu. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. » Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions autrefois, avec nos penchants, avec notre caractère qu'on laissait libre cours. On doit avoir une maîtrise, on doit avoir eh bien, un contrôle parce qu'on veut marcher avec Dieu et plaire à Dieu. Il était véritablement un homme de Dieu, il avait été élevé et préparé parfois même, peut-être même à son insu, pour devenir cet homme de Dieu. Comme un vase pour porter, comme un vase, pardon, pour son propre usage, et dans lequel Dieu avait placé son précieux trésor. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Et peut-être que vous ne le savez pas, parce que, encore une fois, comme pour lui, peut-être que c'était à son insu, Dieu travaille votre cœur, vous fait passer par certaines situations pour vous apprendre, parce que Dieu a un regard sur vous, il vous a choisi pour le servir. Pour le servir. C'était un homme courageux. Au verset 2, il est écrit, « Il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel. » Vous savez que ce n'est pas le tout de le lire, mais quand vous êtes en face d'un nombre important, ou pas forcément important, mais d'un nombre de gens, qui sont opposés à la parole, et que vous venez apporter la parole de Dieu à ce roi qui est là, avec toute sa cour, c'était humiliant pour le roi, parce que, ben voilà, en plus il s'est fâché, il a voulu porter la main, on a vu que sa main a séché, enfin elle était paralysée, il fallait avoir beaucoup de courage. Et du courage, on ne peut le trouver que dans le Seigneur, quand il faut apporter une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Il proclama très haut que l'autel bâti par Jéroboam était un rival de Dieu, de l'opposition. La parole de Dieu brûlait en lui, il ne pouvait ne pas parler de ce qu'il avait entendu et vu. L'apôtre Paul dira en quelques mots que le ministère lui était comme imposé de parler. Peut-être que vous sentez une résistance au fond de vous-même, alors que Dieu vous sollicite, que Dieu vous appelle, que Dieu veut œuvrer dans votre cœur. Vous savez, avant d'avoir une belle maison, avant d'avoir une belle maison, même si elle est restaurée ou une bâtisse neuve, quand on arrive au début, il y a de quoi déprimer. Vous pouvez avoir des sous, la banque vous a prêté l'argent, à moins que vous ayez touché un héritage, peu importe, ou vous ayez des économies suffisantes pour pouvoir faire construire. Mais lorsque vous arrivez, vous avez le papier, enfin les plans de l'architecte, et quand vous voyez votre terrain, il est labouré de tous les côtés, vous dites, mais comment ça peut... Oh. Dans notre cœur, ça peut être pareil. Dieu vient labourer, vient enlever, déraciner, extirper des choses qui sont sous-jacentes. Et si Dieu ne le fait pas, ça reviendra. C'est la raison pour laquelle, parfois, il y a des temps qui sont compliqués, des temps où on a l'impression d'être laminé, on a l'impression d'être labouré dans notre cœur, parce qu'en fait, Dieu va chercher. Vous savez qu'à notre époque, il y a encore des paysans, ou même ceux qui vont construire des logements, retrouvent encore des bombes de la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être même de la Première. Et pourtant, ils sont là. Et parfois, dans notre cœur, c'est comme s'il y avait des bombes. Il faut les extirper, il faut les enlever. Cet homme était un homme puissant, parce que Dieu lui donnait d'avoir cette puissance. Dieu confirma son témoignage par des signes, des prodiges, en rendant sèche la main du roi. Et parce que ce roi va demander, va supplier, eh bien, cet homme de Dieu va prier pour que cette main puisse redevenir saine. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se rendront et qui accepteront d'être disponibles, disposés. Disponibles pour être évidés d'eux-mêmes, pour être remplis de Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire de la tomate ? Non ? Je vous avais parlé de tomate pour vous donner un exemple. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mon exemple. La tomate farcie, vous connaissez la tomate farcie ? Avant d'être farcie, il faut qu'elle soit évidée, la tomate. Et on la remplit de farce. Une fois que celle-ci, elle est cuite, elle s'appelle toujours tomate. Mais pas uniquement. Tomate farcie. Permettez-moi de prendre cet exemple. Il vaut ce qu'il vaut, encore une fois. Pour être chrétien, ce n'est pas le tout d'être chrétien. Il faut qu'on soit évidé de, de ce qui est mauvais en nous. Pour être rempli de Dieu. Alors, ça sera toujours le même bonhomme. Voilà, j'aurai toujours les cheveux blancs. Voilà, moins que je fasse une coloration, et j'ai pas envie, honnêtement. Tu as fait une coloration, non ? Mais ça sera toujours le même personnage, mais rempli. Rempli de Dieu. Et c'est pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, et quel que soit notre âge, les jeunes, comme les plus vieux parmi nous. Mais voilà que cet homme qui était un homme consacré, au verset 6, il est écrit « Alors le roi prit la parole et il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Cet homme était un homme consacré. La consécration avec Dieu pour être sensible aux choses de Dieu, pour être sensible à la voix de Dieu, à l'écoute de Dieu, ce n'est pas dans un brouhaha. Ce n'est pas, vite je me lève le matin, je vais au travail, bon vite j'éteins la radio, Seigneur merci de bénir la journée, je te donne mon cœur, pardonne mes péchés, amen. Hop, ouf. Ça c'est fait, j'ai prié. Ce n'est pas comme ça qu'on... Il faut se donner du temps, prendre du temps. Dans son intimité avec Dieu, dire des choses à Dieu qu'on ne dirait pas devant tout le monde. Et ce n'est pas simplement le dimanche matin. On peut être le dimanche matin, ne même pas prier ou ne pas donner l'impression de prier parce qu'on ne nous entend pas. Et pour autant, peut-être plus profond que celui qui va élever sa voix. On n'est pas là pour faire de la rivalité, de la compétition. Mais dire simplement que pour avoir le courage de dire les choses quand il faut dire les choses, le courage pour dire oui quand il faut dire oui, le courage quand il faut dire non, le courage de maintenir le cap pour marcher dans les voies de Dieu, pour être sensible à sa voix, de ne pas confondre ce que Dieu nous dit et ce penser que c'est Dieu qui me parle alors que c'est simplement moi qui pense que, parce que ça m'arrange que ça soit comme ça. Mais d'être sensible, il faut se donner du temps. Cet homme se donnait du temps pour pouvoir affronter, confronter des situations qui étaient compliquées et complexes. Mais malgré tout, alors que cet homme qui marchait vraiment avec Dieu et toutes ces qualités qu'on a pu trouver, ces qualités spirituelles, c'est un homme qui va chuter. Hélas, mon frère. Au verset 11, nous faisons la lecture. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda, et dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu, qui est venu de Juda ?» Il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans celui-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. C'est écrit. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait été dit, tu ne mangeras point de pain et n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. On ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, il faut retrouver, pas la peur de Dieu. La peur de Dieu, c'est valable pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais la crainte respectueuse de Dieu. Donnez un exemple. Vous pouvez vous aimer, rencontrer l'âme sœur. Et puis, parce que vous vous aimez, vous n'êtes pas marié, vous dites chrétien, mais, oh, mais on s'aime, le Seigneur, il n'est pas... Faut pas être carré non plus. Ça, c'est se trouver des excuses et prendre le nom de Dieu en vain, faisant croire ou pensant que Dieu, eh bien, il est laxiste dans certaines situations, que l'on peut vivre ensemble. Allez, j'emploie un gros mot, coucher ensemble, avant même le mariage. Vous êtes dans le péché. Jésus revient, vous plantez ici. Hein. Je vous le dis clairement. C'est pas même pas la peine de me regarder en faisant des yeux comme ça. Je m'en moque complètement. Les gens peuvent me jeter des tomates ou quoi, c'est la vérité, c'est la Bible qui le dit. Vous êtes dans le péché. Jésus revient, vous êtes cloué ici. Et peu importe, hein. Même si, oui, mais le Seigneur nous aime. Oui, oui, mais ça n'empêche que Dieu vous aime quand même. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous mourrez à cause de votre faute. Ça, c'est valable pour eux. Cette situation, mais c'est vrai pour bien d'autres choses. Ici, l'homme de Dieu avait un ordre de mission. Tu vas faire ça, tu vas dire ça à Joab. Pas Joab, à Jéroboam. Il y va. Et Dieu lui avait dit, tu ne reprends pas le chemin, tu ne manges pas, tu ne bois pas dans cet endroit, tu reprends un autre chemin par lequel tu es venu. Alors le roi va lui proposer. Et l'homme de Dieu, il est bien conscient qu'il est en train de lui répéter, l'homme de Dieu ne sera pas berné, influencé par le roi. Il dit, non, je n'ai pas le droit. parce que Dieu m'a dit de. Mais voilà que un prophète, un vieux prophète, est-ce que c'était un faux prophète? Non, ce n'était pas un faux prophète, mais c'était un prophète non renouvelé. Un prophète qui avait toujours le titre de prophète, mais qui n'était pas régénéré dans la présence de Dieu. Il ment clairement. Il va même prendre le nom de Dieu. En disant, mais moi c'est un ange qui est venu me voir pour me dire que tu pouvais, voilà, Dieu a changé la vie, quoi. Mais ce n'est pas à la part de Dieu, c'est un ange qui m'a dit de te dire. Et c'est écrit clairement, il lui mentait. Vous aurez des pièges sur votre route, frères et sœurs, des pièges. Déguisés en spiritualité, en parlant même des choses de Dieu, mais si c'est contraire à la parole de Dieu, fuyez, résistez, dites non, ou dites oui quand il faut dire oui, et non quand il faut dire non. Parce que le but de l'adversaire, c'est de tromper le peuple de Dieu. Il y a trop de choses dans notre monde qui se vivent sous le nom de Dieu, en prenant Dieu. Frères et sœurs, j'ai besoin de 10 000 euros. Qu'est-ce que c'est que 10 000 euros? C'est 1 000 euros par personne, c'est rien. Donnez-moi et vous serez bénis. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité, ça. Mais c'est du pipeau. C'est du cinéma, c'est du mensonge spirituel. Une fois, j'ai vu un homme ou une femme faire oindre sa carte bleue, parce qu'on dit, si tu fais oindre, tu vas voir, paf, ça va tomber. C'est du mensonge. Et les gens sont bien endimanchés, ils ont un bon vocabulaire. Mais ça, c'est, si on est dans la réflexion, et qu'on connaît la parole, on voit bien que c'est de l'évangile de la prospérité. Mais il y a combien d'autres messages comme ça que l'on laisse courir? Si c'est contraire à la parole, c'est contraire. Basta. Allez. Du vent. Pourquoi ce vieux prophète a-t-il poursuivi l'autre prophète? Ce n'était pas de la jalousie de sa part qui dictait sa démarche, ou la pensée de mettre à l'épreuve son collègue, mais certainement le désir d'entrer en relation avec un homme de Dieu, tel qu'il n'en trouvait plus autour de lui, ou peut-être qu'il vivait dans la nostalgie de ce qu'il avait été auparavant, en disant, à cette époque, je marchais avec Dieu, j'étais à l'écoute de Dieu, voilà un homme de Dieu, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle mes années d'avant. Alors, je voudrais le rencontrer. Alors, pour l'amadouer, voilà, je vais dire un mensonge. Mais c'est un mensonge pieux. Mais ce n'est pas un mensonge pieux, il n'y a pas de mensonge pieux. Hein. Peut-être que ce vieux prophète pensait-il qu'il fallait pas prendre les choses tellement au sérieux. Ah, c'est bon. Dieu lui a dit ça, ok, mais bon, on peut bien un peu... Dieu est gentil, hein? Dieu n'est-il pas le bon Dieu? Vous le connaissez, vous, le bon Dieu? Moi, je ne connais pas le bon Dieu. Je ne connais pas de bon Dieu, mais je sais que Dieu est bon. Il faut juste inverser les mots. Le bon Dieu, je ne le connais pas. Mais je connais le Dieu qui est bon. Peut-être qu'il pensait que le message prophétique ne s'adressait qu'à Jéroboam et non à son sanctuaire. Et pas à lui. Ou peut-être il était-il tolérant de penser que les choses n'étaient pas aussi catastrophiques. Ah, c'est bon, ça va, on est tranquille, on est sur la place. Cool, Raoul, tranquille. Un nouveau mot qui était sorti, il faut. Enfin, non, je ne vais pas le dire, justement, il ne faut pas le dire. Qui vient d'Orient, ou je ne sais plus d'où. Hein? Tranquille. Relax. Et pour autant, eh bien, cet homme n'était pas forcément un homme qui avait un fond méchant. Mais c'était un homme qui n'était pas renouvelé. Dans notre monde chrétien, il y a des chrétiens qui portent toujours le nom de chrétien, mais qui ne sont pas renouvelés. Et qui acceptent et qui permettent des choses dans leur vie qu'ils ne permettaient pas avant. Et si vous réfléchissez, frères et sœurs, si vous prenez le temps, si vous êtes honnête, si vous êtes loyal avec vous-même, réfléchissez à ça ce soir sur votre couche. Peut-être même, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que ça vous empêcherait même de dormir. À la limite, presque je vous le souhaite si c'est pour régler les choses. De dire, mais comment j'étais avant ? Quand je regardais la télé, après la télé, ce n'est pas vital, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de télé, moi j'en ai une chez moi, une télé. Hein. Mais quand je regardais la télé, quand il y avait une scène d'amour à la télé, est-ce que je change. Ou est-ce que maintenant je suis... Ça va, oh, c'est la télé, c'est des comédiens, pas la peine de faire du cinéma, c'est une scène d'amour, ça va, on voit rien. Ils ont un peu chaud, ils sont un peu dénudés, un peu trop. Mais enfin, ça va, on est des adultes, on sait faire la part des choses. Est-ce qu'on faisait comme ça ? Est-ce qu'on fait comme ça maintenant ? Ou est-ce qu'on est toujours dans le « Seigneur, ben, écoute, non, j'ai pas envie. » Sur nos téléphones, vous savez que sur les téléphones, on peut avoir tout ce que l'on veut. De bien, mais de mauvais aussi. Hein. Et puis, personne ne sait. Hein. Je peux même faire une faute d'orthographe sur ce que je veux voir. Mon téléphone va m'aider. « Oh, c'est pas grave, t'as fait une faute d'orthographe. C'est pas... Oh, regarde, je te trouve. Ah, oui, c'est... Ah, ça s'écrit pas comme ça. Ah, ça s'écrit comme ça. Mais en fait, je m'en fiche, je veux voir ce qui suit. » Ça, c'est pour nos pensées, nos regards. Mais même nos paroles. Est-ce qu'avant, je faisais attention à mon tempérament ? Seigneur, tu vois, je... Ouf ! Ben, Seigneur, je vais être sage. Je vais faire attention à ma façon de parler, ma façon de... conduire ma vie. Vous savez, Pierre, ce n'était pas un gars qui était facile. Hein. Je pense que Pierre, c'était un gars... Je pense qu'il fallait... Franchement, je pense, enfin, d'après ce qu'on comprend, il ne fallait pas lui marcher sur les pieds. Hein, parce que... Non. Mais cet homme, après, il n'a pas entretenu en disant « Ah, moi, c'est mon caractère. Moi, je suis comme ça. Si on le cherche, on le trouve. » Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Hein. Que ça te donne du courage pour dire les choses, oui. Mais Dieu ne cherche pas que tu fasses rouler mécanique. Dieu, ce qu'il cherche, ce que Dieu désire, c'est que nous ayons du caractère. Et je vais vous dire, il nous faut tous avoir du caractère. Tous. Mais du bon caractère et du caractère conduit par Dieu. Et puis, il y a aussi parfois des choses que personne n'est au courant, et parce que ben, on pense que voilà, oh, c'était bon pour le passé, c'est plus valable pour maintenant. Et puis j'ai mes raisons. Le fait de ne pas pardonner. Mais moi, frère, c'est normal que je ne pardonne pas avec tout ce qu'on m'a fait. Et, si vous avez vécu ce que j'ai vécu, vous ne parlerez peut-être pas comme ça. Oui, d'accord, je comprends, mais je n'ai pas envie de vivre ce que vous avez vécu, surtout si c'était tragique pour vous. Ben, je n'ai pas envie, hein. Franchement, si je peux éviter les problèmes, je les évite. Hein. Mais que me dit la Bible ? Le pardon. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils mettent des dossiers comme ça sous le coude. Et les années passent. Vous avez remarqué que la poussière, elle vient s'installer. Hein. Et la poussière en voiture, en voilà. Et on pense qu'avec le temps qui passe... que ça va s'estomper. Mais des non-pardons ne règlent rien. Au contraire, ça ne fait qu'endurcir les cœurs. Si vous avez besoin de demander pardon, faites-le. Je vous conseille de le faire. Parce que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, un jour ou l'autre, de bien ou de mauvais, nous aurons des comptes à rendre. Pas au pasteur, hein. À Dieu. Le pasteur a déjà bien des comptes à rendre pour lui-même. Mais à Dieu. C'est pour ça que, frères et sœurs, c'est important de prendre la parole de Dieu au sérieux. Ce prophète qui était un homme qui pourtant avait des qualités extraordinaires, enfin des qualités extraordinaires, des qualités normales, quoi, d'un croyant, qui voulait marcher avec Dieu, qui doit... En fait, les caractéristiques de cet homme de Dieu, ce sont les caractéristiques que nous devons tous avoir parce que nous marchons, nous voulons marcher avec Dieu. Ce n'était pas un homme extraordinaire. C'était un homme normal, dans la vie duquel Dieu faisait des choses extraordinaires. Mais pour autant, il s'est loupé. Hélas, mon frère, Ce gars, il est mort. Parce qu'il a écouté ce vieux prophète qui n'avait pas été renouvelé, régénéré, et il pensait que, oui, la parole de Dieu, d'accord, mais... enfin, lui, c'est quand même l'ange qui lui a parlé, quand même. Donc, oui, Seigneur, j'ai entendu, hein. J'ai fait ce que tu m'as fait, la première partie, mais quant à la deuxième, qu'est-ce qui a fait que cet homme, il a accepté, en fait? C'est intéressant de savoir. Peut-être que il voulait faire connaissance avec un autre prophète. Vous savez, cet homme, il était prophète de Dieu, mais en fait, vous savez, cet homme de Dieu, souvent, ils sont seuls. Hein. Alors, je ne dis pas ça pour faire le petit canard. Hein. Je ne dis pas ça, je répète, je ne dis pas ça pour faire le petit canard. Mais ceux qui marchent, ceux qui servent Dieu, souvent, ce sont les gens les plus seuls. Vous voyez, les gens, ils me disent, ah, on prie pour toi. Je ne leur dis pas, mais vous pouvez continuer. Hein. Continuez. Parce que si vous saviez ce qui se passe parfois dans notre tête, ce qui se passe de ce qu'on peut vivre parfois. Alors lui, peut-être qu'il s'est dit, ah ben, un collègue, tant mieux. Après avoir vécu ce que j'ai vécu avec ce roi et la main qui veut me saisir, et puis tous ceux qui étaient en train de me regarder comme ça, qui étaient prêts à me bondir dessus, enfin, collègue, ça va me soulager, ça va me détendre, ça va me faire du bien, je vais pouvoir parler avec lui. Mais c'était un piège. Peut-être qu'il avait faim, qu'il avait soif, c'était un homme. Et Dieu avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, là où tu es, pas. Mais s'il dit, c'est un collègue. Bah, puisque c'est un collègue, je vais pouvoir prendre un petit repas avec lui. C'est bon, c'est un repas sanctifié. On parlera. Puis c'est un vieux prophète. Moi qui suis jeune, je pourrais l'encourager. Je vais continuer ma mission. Merci Seigneur, parce que tu vois, ça, je n'avais pas prévu. T'sais, franchement, Dieu fait bien les choses quand même. Hein. Mais Dieu n'était pas dans l'affaire. Galates 1, verset 7. Et je termine bientôt. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, etc. etc. En fait, Paul, il le dit, il y a un évangile. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quelle est la faute de cet homme, de ce prophète? Peut-être qu'il était fatigué, en fait. Parce qu'il venait de vivre une mission compliquée, tendue. Parce que, vous savez, frères et sœurs, nous, c'est facile de lire ça. Et peut-être que quelqu'un est ce matin dans le même état d'esprit que l'homme de Dieu. Il est tendu. Il a faim, il a soif de voir autre chose. Parce que vous êtes en train de passer par une situation où vous avez passé une situation compliquée, tendue. Et vous dites, ouf, j'ai besoin de fraîcheur. J'ai besoin de me décontracter. J'ai besoin de vivre autre chose. Parce que ça a tellement été tendu que c'est compliqué. Peut-être que c'était son état d'esprit. L'invitation du vieux prophète tombe à pic. Et en fait, c'est dans de tels moments de faiblesse que la tentation est la plus dangereuse. Je vous donne un exemple encore. Peut-être que vous êtes seul dans la vie. Là, c'est l'été. Et vous voyez au journal télévisé les gens qui se plaignent, ah, il fait chaud. Il fait chaud comme l'année dernière. Hein. Il fait chaud. Mais vous voyez, les gens, ils sont avec leur voiture dans leur clim, la clim dans la voiture, et ils descendent. Et vous dites, mais il y a le mari, apparemment, je ne le connais pas. le mari, la femme, les enfants. Et moi, je suis seul. J'aimerais bien être comme eux. C'est des moments de faiblesse, des moments de fatigue. La solitude peut être fatigante à vivre. Et c'est un véritable piège. Parce qu'on peut rencontrer des gens parfois qui vont venir pallier à notre solitude, mais qui ne seront pas envoyés de Dieu. Et de se dire, mais c'est une véritable tentation. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. La Bible nous dit dans Philippiens 4:4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Dans tous vos besoins, ce n'est pas simplement pécunier. Hein. Dieu répond à nos besoins sentimentaux aussi. À tous vos besoins. Dieu sait. Voilà. N'allez pas sur des sites de rencontres, vous allez tomber dans un piège. Il y a une petite gamine, là, j'ai entendu, là, c'est quand ce matin, je crois ? 10-11 ans, voilà, avec tous les réseaux sociaux. Elle tombe sur un jeune de son âge, croyait-elle. Sauf que l'autre, il avait 50 plus, il est venu l'agresser. Les réseaux sociaux ne sont pas votre bout de secours, frères et sœurs. Quel était le signe et le sens du jugement ? Le jugement divin frappant le prophète désobéissant confirme la véracité, en fait, de son message, que sa conduite risquait de compromettre auprès des gens qui avaient entendu ses déclarations et l'avaient vu agir en contradiction avec elle. Le récit de sa mort était rendu le plus impressionnant par le comportement du lion, puisqu'au verset 28, c'est ça le verset 28, le lion sera couché à côté de l'homme de Dieu. Et à côté de l'âne, il ne va pas les toucher. Une bête féroce comme un lion, qu'est-ce qu'il fait ? Il tue l'homme, ben, il va le grignoter. Et un tibia, l'âne, il aurait pu se sauver, forcément, apeuré. Non, le lion, il est là. Ainsi, il attend, comme pour symboliser la chute de cet homme. Quelle tragédie. Hélas, mon frère. Je termine avec ce passage de 1 Pierre, chapitre 5. Chapitre 5, versets 8 à 9. Avant tout, non, c'est pas ça, oui, chapitre 5, verset 8 à 9, il est écrit, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui. » Que le Seigneur nous bénisse pendant ce temps où les uns et les autres, nous allons partir en congé. Il y en a qui sont rentrés, bien sûr, mais j'imagine que certains parmi vous, vous allez partir. On est chrétien même en vacances. Même dans un club, même dans un camping, on est chrétien. On demeure chrétien. On n'est pas chrétien adhérent à une sauce en disant oh, « bah, moi je suis membre, puis en dehors des vacances, ça y est, je suis « wouh, wild again !» C'est la fête au club, club, je sais pas quoi, club, hein ? Marmara. Oui. Tu connais ça, toi ? Au club, voilà. Non. On est chrétien et ma vie de chrétien, c'est une question de cœur. Dans ma vie de tous les jours, à chaque instant, quand je suis en public, quand je suis dans mon intimité avec ma famille et quand je suis seul avec moi-même. Je suis un chrétien dans mes pensées, dans ma façon de voir, dans ma façon d'écouter, dans ma façon de dire et dans ma façon de faire.